Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes. Qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins qu'à celui les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'orage de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui est mon sujet, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, nous allons parler du Yémen, qui est une guerre occultée avec mon invité Benoît Muracciol. J'ai bien prononcé ton nom ?
Muracciol, Muracciol.
Voilà, je vais y arriver. À force de t'inviter, je vais finir par bien le prononcer, Benoît. Benoît, bonjour.
Bonjour Mariama et merci de nous recevoir.
Oui, là, Benoît, tu es président de l'AZER.
Oui.
Alors, présente-nous l'AZER en quelques mots.
Alors, AZER, c'est Action Sécurité Éthique Républicaine. C'est une ONG qui a été créée avec des anciens officiers de police, sur la base de du travail que l'on faisait lorsque j'étais responsable de ces questions de militaires et police à Amnesty International. Donc c'est une ONG qui a été créée pour le respect des droits de l'homme, homme avec un H majuscule, dans le domaine des transferts d'armes et dans le domaine du maintien de l'ordre, enfin pas uniquement du maintien de l'ordre, de la force publique en général. Et on a créé ce travail, on a fait ce travail parce que Amnesty ne le faisait plus. Et on s'était dit que la meilleure façon de perpétrer ce qu'on avait fait auparavant, et notamment notre investissement dans les discussions et négociations du traité sur le commerce des armes aux Nations Unies, c'était la meilleure façon de le faire ici en France.
D'accord. Alors, on va commencer par donner l'historique du Yémen. Pourquoi c'est une guerre occultée, justement ?
Alors, oui, alors, on n'est pas des spécialistes du Yémen, hein, mais on, bon, forcément, puisque ça a été une des grosses actions de notre ONG, hein,
oui.
On était la première ONG à saisir un tribunal en France pour demander la suspension des exportations d'armes du gouvernement français en direction de pays qui s'étaient responsables à l'époque de crimes de guerre et puis, on l'a vu après, de crimes contre l'humanité. Cette action a démarré en 2018, mais la guerre... Alors, le Yémen, c'est une longue histoire, mais disons que la création du Yémen, d'un seul Yémen, c'est 1990. Et en 1990, il y a cette création, cette réunification du Yémen du Nord et Yémen du Sud. Et bon an, mal an, le pays a réussi à avancer jusque, je dirais, dans les années, début des années 2000. Bon, il y a toujours eu quelques affrontements, mais début des années 2000, où les Houthis, cette communauté de gens qui se retrouvaient derrière un leader qui portait le nom Houthi, alors je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas... La pression a commencé à monter entre cette communauté et une communauté qui était plus proche de l'Arabie Saoudite. Et le Yémen a connu les printemps arabes, puisque en 2011, il y a eu une grande révolution au Yémen. Et Saleh, qui était le président dictateur de ce pays, a dû renoncer au pouvoir et s'est réfugié d'ailleurs... en Arabie Saoudite. Entre-temps, il y a eu quand même des conflits, des guerres, puisque en 2009, déjà, l'Arabie Saoudite était intervenue au Yémen et avait, sur les témoignages des chercheurs à l'époque, on a vu qu'ils avaient été déjà à cette époque responsables de crimes de guerre. Et que les règles d'engagement des militaires qui travaillaient sous la responsabilité du gouvernement saoudien, enfin du prince saoudien, faisaient peu de cas du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.
D'accord. Alors, le Yémen, c'est la pire crise humanitaire au monde.
Oui, c'est ce que disait l'ONU, les Nations Unies. Bon, c'est toujours un peu compliqué de dire ça, parce que forcément, pour les familles qui vivent une crise humanitaire, elle est toujours la plus terrible quand on la vit.
Ouais.
Et non, on s'est attaché au Yémen, parce que, comme tu l'as dit, Mariama, c'est une guerre occultée, c'est une guerre dont les journaux ne veulent pas parler, et pour une raison très simple, hein, c'est que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont payé des agences, alors en France c'est Publicis et Havas, de façon à ce qu'on ne parle pas de ce conflit, de cette guerre.
Et apparemment avec succès.
Avec succès, oui, avec succès. Quand on voit qu'aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, presque tous les journaux ou presque tous les gros médias font des directs, des lives presque. Hein. On regarde, vous pouvez suivre presque, enfin en tout cas au jour le jour, l'avancée de la guerre en Ukraine. Alors, au Yémen, on ne sait rien, pratiquement rien de ce qui s'est passé. Donc, c'est une situation qui est extrêmement tendue, mais c'est une situation par rapport à la guerre aujourd'hui qui continue en Éthiopie, la guerre qui continue au Soudan, la guerre qui continue en République démocratique du Congo et dans d'autres pays, ou alors d'autres pays dans lesquels il n'y a pas une guerre déclarée, mais il y a une violence armée terrible. Je pense à Haïti notamment, certains pays de l'Amérique latine comme le Honduras, Salvador, Mexique, le Brésil aussi. Donc voilà, on a choisi de saisir le tribunal administratif de Paris pour dénoncer des ventes d'armes irresponsables du gouvernement français, mais ces ventes d'armes se posent pour d'autres pays. D'ailleurs, on le verra, puisqu'on on est en train de réfléchir sur une action, une même action, en direction d'Israël.
Bon. Alors, il y a eu une trêve au Yémen du 2 avril au 2 octobre 2022.
Oui.
Depuis, le conflit a repris.
Alors, de façon sporadique, encore. Il y a eu quand même un événement plutôt important, c'est l'entrée en jeu de la Chine. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, dans la guerre au Yémen, les membres permanents du Conseil de sécurité, aucun des membres permanents du Conseil de sécurité ne se souciait vraiment de la vie des Yéménites. Aux États-Unis, sous l'ère Trump d'ailleurs, hein, c'est quand même, faut quand même le noter, il y a eu pas mal de votes du Sénat, de la Chambre des représentants, qui ont demandé la suspension des exportations d'armes des États-Unis vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, et à cette époque-là, Trump avait posé son veto, comme la Constitution
le lui permet.
Et il n'avait pas trouvé le filibuster, les 60%, je crois, de
vote, majorité.
Voilà, qui leur permettait de dépasser le veto. Donc il y a eu quand même, aux États-Unis, quelque chose qui s'est passé. En France, il y a eu plus de 100 députés qui ont demandé, l'initiative d'ailleurs de Sébastien Nadeau, la création d'une mission d'enquête parlementaire sur les exportations d'armes de la France en direction de l'Arabie Saoudite. Et malgré le fait qu'il y ait eu plus de 100 députés, la question n'a jamais été
mise
étudiée,
à l'ordre du jour.
Ni mise à l'ordre du jour, ni même étudiée par les présidents de commission, m'avait-on dit. Ce qui prouve l'extrême faiblesse de la Constitution française sur le plan de la démocratie, et ce qui prouve aussi la difficulté que l'on a en France de pouvoir aborder à la fois les questions militaires et les questions droit international, droit de l'homme, droit international et humanitaire.
En fait, l'exécutif décide et le Parlement est obligé de laisser passer, en fait.
Voilà. Il est obligé, non, il pourrait se lever et dire non, mais on l'a vu pour la loi de programmation militaire, il y a eu, je crois que c'est le groupe communiste qui a refusé de voter la loi, mais l'ensemble, il y a eu des abstentions, mais sinon,
il y a eu un vote.
Il y a eu un vote largement positif. Donc, il y a un vrai problème en France sur cette question-là. Et bien sûr, nous, AZER, quand on fait cette action judiciaire, on sait que le politique va intervenir le plus possible auprès du judiciaire pour que ça s'arrête. Mais sur la saisie, notre première saisie du tribunal administratif, au début nous étions seuls, et puis la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous a rejoints. Et on a obtenu, et ça a été à la fois une première victoire, le fait que les juges aient considéré que nous étions en droit de faire cette demande et que le gouvernement ne pouvait pas dire que, puisque c'était un acte de gouvernement, et que donc ni la justice ni la société française avaient quelque chose à dire sur ce mot. Donc il y a eu une première victoire. La victoire a été un peu mitigée parce que, dans un deuxième temps, sans doute effarés par leur décision, oui, leur audace, ils ont
reculé
en disant que le traité sur le commerce des armes ne s'appliquait pas directement en droit français, ce qui est contraire à notre constitution.
Alors, ce traité sur le commerce des armes, qu'est-ce qu'il permet et qu'est-ce qu'il ne permet pas ? Qu'on l'explique bien à nos auditeurs.
Alors, c'est un traité qui a été pensé dans les débuts des années 90, peut-être même un petit peu avant, au sein d'Amnesty International à l'époque. Vraiment, à l'époque, Amnesty International était une vraie organisation des droits de l'homme, ce qui n'est plus le cas, malheureusement. Et on s'interrogeait, parce que quand on avait travaillé sur la façon dont étaient perpétrées ces violations des droits de l'homme, on s'était aperçu que dans plus de 90% des cas, les armes ou la menace des armes étaient impliquées. Donc, en pensant à ça, on s'est dit que le meilleur moyen pour prévenir ces graves violations des droits de la personne, eh bien, il fallait contrôler les exportations d'armes. Un des premiers exemples à cette époque-là, dans les années 80, qui sort, c'est les groupes d'Amnesty britanniques se sont aperçus que Amin Dada, donc le dictateur ougandais, avait été armé, notamment avec, principalement d'ailleurs, avec des armes britanniques. Donc c'est comme ça qu'est venue petit à petit, en tout cas, la question de la responsabilité des États dans l'autorisation d'exporter de l'armement. Et puis petit à petit, grâce à un type, Brian Wood, un de mes amis, qui était responsable de ces questions-là à Amnesty International, il a commencé à élaborer cette idée d'un texte juridique, en disant... faut surtout rien inventer, on va prendre ce qui existe déjà en droit international et on va essayer de l'appliquer sur les questions d'exportation d'armement. Et donc, petit à petit, on est allé aux Nations Unies, on a commencé à discuter de cela. On a eu ce premier vote en 2006 où plus de 116 États ont parrainé la résolution qui demandait l'ouverture de discussions au sein des Nations Unies sur le traité sur le commerce des armes, avec une opposition très forte de la part des États-Unis à l'époque. Et puis, en 2009, Obama est au pouvoir, et tout d'un coup, les États-Unis rentrent dans le processus et ouvrent, des négociations. Pas tout à fait officiellement des négociations, mais ouvrent des négociations. Et en en avril 2013, est adopté le traité sur le commerce des armes.
Mmh, parfait. Alors, nous, Français, qui armons l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, avec des armes qui servent contre les populations yéménites, les Houthis. Alors, au niveau de ce traité, est-ce que nous pouvons être poursuivis efficacement ?
Alors, c'est toute la difficulté du traité, c'est-à-dire que, et c'est là où jusque-là, on avait ce premier pas positif, négatif, mais en tout cas cette ouverture
des juges.
De la part des juges, et qui a été giflée vraiment de façon dédaigneuse par le Conseil d'État, qui est une grande représentation aussi démocratique française et moderne, qui a dit que de toute façon c'était un acte de gouvernement et que une fois encore les citoyens n'avaient rien à voir, ni les juges ni les citoyens n'avaient à voir là-dedans. Normalement, notre constitution dit que les textes des traités sont au-dessus des lois françaises.
Tout à fait.
Donc un certain nombre de juristes internationaux considèrent que du coup la question de l'applicabilité directe des traités s'applique. Ouais. Elle s'est posée notamment, et Jean-Claude Alt, qui est un membre du conseil d'administration, l'avait fait ce travail avec le droit pour les enfants, la convention des droits de l'enfance, où dans un premier temps, le Conseil d'État et la Cour de cassation avaient refusé l'application directe et qui finalement avaient accepté cette question-là, l'application directe du droit, et sur une question très très large, puisque c'était sur la question du bien-être de l'enfant.
D'accord.
Or, dans l'article de la Constitution, il est dit que si le texte n'est pas assez précis, on peut refuser l'application directe, parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir un texte plus précis en droit français. Mais là, sur cet exemple-là, le Conseil d'État avait finalement reconnu l'application directe de ce concept de bien-être de l'enfant. Donc, on voit... Enfin, c'est difficile, on comprend pourquoi le pouvoir refuse cette idée d'application directe, mais le droit finira par avancer. Le droit, c'est du rapport de force.
Oui. Hein.
Donc, là-dessus, on regrette bien sûr que de grandes ONG ne se soient pas joints à nous au niveau français pour faire pression sur le gouvernement français. Quand on a eu le traité sur le commerce des armes, mais quand on a réussi à avoir la France, à un moment donné, était un moteur sur les discussions et les négociations du traité. Et on s'est aperçu qu'elle l'était aussi parce qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire au sein de ces ONG. Et que cette démobilisation, elle a complètement disparu à partir du moment où le traité est entré en vigueur en 2014. Donc là, on sent bien, dans ce rapport de force, que si on veut que le traité soit application directe, et que les citoyens aient un mot à dire sur cette question-là, eh bien, on a besoin d'une mobilisation. Et qui mieux que ces grosses ONG comme Human Rights Watch, la FIDH, Amnesty International, pourraient mobiliser, non pas sur une fois par an pour récolter de l'argent, mais une vraie mobilisation comme on l'avait faite, où tous les mois on fait des actions auprès des députés, etc. Il faut quand même noter que le groupe du Sénat républicain communiste a fait déposé un projet de loi demandant à ce que soit créé un orgue, alors le nom après porte peu, mais une commission parlementaire qui puisse a posteriori examiner les exportations d'armes de la France de façon à pouvoir bloquer celles qui sont contraires aux obligations internationales
de ce fameux traité.
Du traité. Le principe est très simple, hein. Il y a un article d'interdiction, l'article 6, qui dit on ne doit pas exporter des armes quand cette exportation même viole les engagements internationaux. Par exemple, Israël, l'apartheid en Israël a été reconnu, enfin, je dirais, par Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem, disent, oui, l'État d'Israël est un État d'apartheid. Eh bien, l'apartheid, c'est une violation de toutes les obligations internationales de la France. Donc, à partir de ce moment-là, la France doit cesser d'exporter tout matériel de guerre en direction d'Israël. Non pas parce qu'elle va servir directement à cet état d'apartheid, mais parce qu'elle renforce un gouvernement qui ordonne cet apartheid. Et c'était de cette façon, c'est sur cet article 6 que nous nous étions basés, que notre avocat Matteo Bonali avait fait un gros travail, remarquable d'ailleurs, c'est de dire, voilà, les armes qui pourraient être utilisées à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, eh bien, toutes ces armes-là, il ne faut pas dire que elles risquent d'être utilisées. Non, c'est qui pourraient être utilisées doivent être arrêtées. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur l'interprétation même de l'article 6, on n'a pas eu de commentaire de la part du gouvernement.
D'accord. Hein.
Mais nous, c'est en tout cas là-dessus qu'on s'est basé. Ce qui est très malheureux, c'est que malheureusement, c'est lié, mais comme les ONG ont arrêté de travailler là-dessus, on a perdu toute l'expertise.
D'accord.
Donc, le gouvernement français a été assez malin pour parler d'un article 7 qui parle de risque d'utilisation des armes. Alors, il faut montrer qu'il y a un vrai risque d'utilisation de ces armes. Et donc, les ONG ont suivi cette histoire de risque d'utilisation et ont complètement
occulté l'article 6. Alors, au niveau des Nations Unies, sur le Yémen, sur la question du Yémen.
Oui.
Quel est leur rôle, ou plutôt quel est le fait qu'ils ne fassent pas leur rôle, plutôt ?
Alors oui, c'est ce qui est très très troublant. Hein, et on a fait un travail grâce à de stagiaires au sein d'Action Sécurité d'Azer sur les interventions de commission des droits de l'homme vers la Syrie et vers le Yémen, pour voir un petit peu s'il y avait une façon juste et équilibrée, juste et équitable, de la part des Nations Unies, de traiter ces deux guerres.
Mmh.
Et le résultat est assez terrible. Pour la Syrie, le début du soulèvement, c'est février 2011.
Exact.
Février 2011, et le 29 avril 2011, il y a il y a une mission d'établissement des faits en République arabe syrienne, hein, qui a été décrétée, mise en place, et qui a comme objet, alors je suis rapide, hein, mais dans le cœur, hein, la question, c'est dans le contexte en question, dans la crise de Syrie, les crimes contre l'humanité sont particulièrement pertinents pour les événements en Syrie depuis la mi-mars 2011, en particulier en référence aux meurtres, à la torture, aux disparitions forcées, aux persécutions, à l'emprisonnement ou formes sévères de privation de liberté et autres actes inhumains. Là, dans cette définition qui est très très claire, hein, on parle bien de torture, disparition forcée, persécution. Et ça, vous pouvez imaginer que ça s'applique à tous les conflits dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Okay. Eh bien, tout de suite, les Nations Unies demandent à cette mission d'établir les faits concernant des possibles crimes, les crimes contre l'humanité. Et donc on est
en avril.
On est en avril. Puis en août 2011, cette fois-ci est mise en place une commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne. Et encore une fois, avec comme point central du mandat d'enquêter sur la potentielle commission de crimes contre l'humanité en Syrie. Donc nous sommes dans la même année du soulèvement en Syrie, et les Nations Unies font un travail, on pourrait dire, remarquable, c'est-à-dire que, vu la gravité de la situation en Syrie, elle met en place tout de suite les éléments de façon à ce qu'on ait à la fois une mémoire de ce qui se passe et que la justice puisse être faite à l'avenir.
Au Yémen,
il y a des discussions sur le début de la guerre au Yémen. Il y a des gens qui disent que c'est 2014. 2014, le président Mansour Hadi avait été, après la crise de le printemps de 2011, il est nommé et on le nomme une espèce de cooptation pour lui dire voilà, il faut mettre en place des élections pour 2014. Et il ne met rien en place du tout. C'est la raison pour laquelle les Houthis ont choisi de soulever. D'ailleurs, que ce soit clair, nous n'intervenons ni pour un camp ni pour l'autre. Hein, dans toutes les observations qui sont faites par le Conseil de sécurité pendant la guerre au Yémen, il est rappelé plusieurs fois qu'aux deux parties, et on verra peut-être aux trois parties, que toutes les parties au conflit sont tenues de respecter le droit international. On n'est pas du tout en train de dire les Houthis seraient les bons et
la coalition serait
les mauvais. Non, nous on s'attache simplement au respect du droit international. Donc certains considèrent que c'est 2014, d'autres considèrent que c'est 2015. Puisque c'est l'intervention de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, cette intervention est jugée légitime parce que les Nations Unies ont considéré que Mansour Hadi avait encore
un mandat légitime
pour appeler à cette intervention. Or, il avait une première fois démissionné suite à l'intervention armée des Houthis, et quand il a demandé cette intervention, il n'avait plus aucune légitimité sur le Yémen et il était réfugié en Arabie Saoudite. Donc il y a une discussion sur est-ce que c'est véritablement une légitime pour ces pays, est-ce que c'est un conflit international ou est-ce que ça ne l'est pas. Mais à partir du moment où on considère mars 2015, eh bien, il va falloir plus de 2 ans pour l'établissement du groupe d'experts internationaux et régionaux au Yémen. Et là, ce qui est intéressant, et vous allez comprendre, c'est que le mandat est complètement différent. Le mandat, c'est pas du tout d'enquêter, c'est pas du tout de regarder si, de poser la question des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est de surveiller la situation des droits de l'homme et en rendre compte, procéder à un examen approfondi de toutes les violations du droit international des droits de l'homme et d'autres domaines appropriés. Donc déjà, ce n'est qu'une mission de surveillance. Et à aucun moment, il est fait mention de
récolte des renseignements.
Non, d'une part de crimes contre l'humanité, la référence au crime contre l'humanité, ou même crime de guerre. Donc on voit déjà une manière de la part des Nations Unies de traiter deux conflits de guerre de façon complètement déséquilibrée. Et il y a bien une tentative de la part de certains États de créer une commission d'enquête. Et ce projet de commission d'enquête a été torpillé, notamment par la France. Et bien sûr, derrière, il y avait une pression de MBS, dont Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier, qui était le ministre de la Défense à l'époque, en tout cas, et qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, ainsi que de Mohamed Ben Zayed, qui, lui, est le prince des Émirats Arabes Unis. Alors, je ne sais plus s'il a le statut de je ne crois pas qu'il ait le statut de président, mais enfin, c'est lui qui représente les Émirats Arabes Unis. Donc là, on voit bien que la vie de... Selon que l'on est d'un côté ou de l'autre, la vie d'un Yéménite a beaucoup moins d'importance
que celle d'un Syrien. Voilà.
Celle d'un Syrien. Et encore, celle d'un Syrien, ça dépend de quel côté il se trouve. Puisqu'on se rend compte aussi, avec notamment la question des enfants français qui sont nés en Syrie, qui ont été emmenés par leurs parents et qui se sont trouvés en Syrie pendant la guerre, on se rend bien compte que là aussi, France met énormément de temps pour faire appliquer le droit international.
Alors très vite, un mot sur Martin Griffiths.
Alors, oui. Alors, déjà, donc, je dirais factuellement, on va sortir ce rapport, de toute façon. Vous pouvez déjà voir sur notre site le rapport sur les crimes contre l'humanité au Yémen. Je ne sais plus si c'est quelques mois après, Macron parle de crimes contre l'humanité, semble découvrir les crimes contre l'humanité sur la guerre en Ukraine. Il n'a jamais prononcé ce mot-là sur la guerre au Yémen. Et aucune des grosses ONG n'a fait ce travail-là de recherche. Et donc, il y a nous qui avons sorti ce premier rapport sur les crimes contre l'humanité au Yémen. Et puis, il y a le Guernica 18, un groupement d'avocats en Angleterre qui a poursuivi, alors après quelques temps après nous, mais là c'est plutôt sur le plan pénal puisqu'elle poursuit les individus sur la CPI, la Cour pénale internationale, des responsables à la fois saoudiens et émiratis sur la base de crimes contre l'humanité. Mais la question des crimes contre l'humanité, aujourd'hui, nous n'avons vu aucune ONG, grande ONG internationale, avoir fait une enquête, avoir fait le travail, un minimum de travail qu'on a fait, ou reprendre en tout cas, et nous on n'a pas les moyens financièrement du tout d'envoyer les gens sur place, pour avancer. Et là, on revient à la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette guerre occultée, c'est-à-dire qu'on voit toute l'organisation qu'il y a pour surtout que l'on n'en parle pas et surtout que cette question-là ne déborde pas sur l'agenda international. Et quand tu me posais la question de Martin Griffiths, donc Martin Griffiths, c'est l'envoyé des Nations Unies au Yémen. Et ce bon Martin Griffiths, qui est secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires actuellement, il a été envoyé au Yémen donc entre le 11 mars 2018 et le 5 août 2021. Eh bien, Declassify, qui est une association de journalistes, etc., a montré que non seulement il était lié avec les services secrets britanniques. Bon, il y a une longue histoire britannique, puisque les Britanniques avaient soutenu le Yémen du Sud à une époque, de façon assez paradoxale, puisque c'était un pays marxiste. Mais les Britanniques, comme les Français d'ailleurs, mais moins dans cette partie-là, les Français c'était plus le Liban, etc., ont vraiment préparé le chaos de ces régions. Et elle y continue, avec beaucoup d'applications. Et non seulement il est lié avec le gouvernement britannique et les renseignements britanniques. Il faut quand même dire que les renseignements britanniques disposaient, alors toujours selon Declassify, en juillet 2021, un détachement secret de 30 soldats à l'aéroport de Al-Gheda, dans la province de Mara, et qu'ils entraînaient aussi les forces saoudiennes et des pilotes saoudiens, notamment sur les avions de combat Typhoon, donc, qui sont des avions de combat britanniques. Mmh. Voilà, donc on nomme un médiateur pour trouver une résolution de conflit, et il se trouve que ce médiateur est déjà partie prenante du conflit. La deuxième couche, c'est que Martin Griffith, il a été, et il est toujours, semble-t-il, engagé dans un travail avec les renseignements, toujours avec le MI6, le fameux service secret britannique. Donc ça, c'est déjà le lien direct de Martin Griffiths et de son manque de la corruption, de la nomination de ce monsieur. Le deuxième problème qu'il y avait avec ce cher Martin Griffiths, c'est que il est le cofondateur de Mediation Group International avec un type qui s'appelle Andrew Locken, qui est le vice-président d'ICAR. ICAR, c'est une société qui a des intérêts commerciaux en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et pas avec n'importe qui, notamment c'est avec Aramco, la grande compagnie pétrolière. Et alors, le lien n'est pas direct, c'est-à-dire que c'est pas Mediation Group qui est partie de ICAR, la société de Locken. Sauf que ces deux sociétés, il se trouve que ces deux sociétés ont le même siège social. Donc, voilà,
l'un est le fauné de l'autre.
Voilà, on peut se poser la question, et qui est situé en Suisse, à Fribourg, en Suisse. Donc, non seulement les Nations Unies ne se donnent pas les mêmes moyens pour enquêter sur les crimes contre l'humanité au Yémen, mais en plus de ça, on met comme médiateur jusqu'en 2022. 21, oui, jusqu'en août 2021, on met un médiateur
suspect
qui est partie prenante dans le conflit. Donc le terme occulté, il y a sans doute un terme encore plus fort. Et là, de ce point de vue-là, alors pour une fois, ce sont les Chinois qui ont permis, en tout cas, une accalmie. Ils ont fait un truc assez extraordinaire. Ils ont fait se serrer la main les Iraniens et les Saoudiens.
Oui.
Ce qui a entraîné la reconnaissance par le régime saoudien en avril 2023 des rebelles houthis. Mm. Donc ça, c'est quand même très important. Beaucoup, j'ai pas parlé du conflit religieux, etc., parce que je trouve que très souvent on prend ce prétexte-là en disant oui, les Houthis qui sont plutôt les zahadistes, qui sont plutôt une forme particulière du chiisme, etc., par rapport aux salafistes, hachémites, etc. C'est toujours un prétexte, c'est-à-dire que la religion, c'est relié, donc quand on sort de ça, c'est plus la religion, c'est de l'idéologie, et voilà. Donc là aussi, sur l'idée de guerre de religion, moi je pense qu'il faut faire attention à ce genre de qualification.
Merci Benoît. On va faire une pause et on va revenir sur le côté juridique.
Oui.
Oh, il y a là, et la Lega crescerà, et noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, il y a là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà.
Abbiamo delle belle buone lingue.
benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oh, oh, io rio là e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, io rio là e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oh, il io lì, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, il io lì, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur le Yémen, la guerre occultée, avec Benoît Mouachol, je vais y arriver. Alors, nous allons commencer par évoquer un communiqué de l'AZER.
Oui.
Sur une justice à plusieurs vitesses, pardon.
Oui. La décision du Conseil d'État s'est faite au mois de janvier 2023 de cette année.
Oui.
Et on était assez furieux. Et en mars 2023, on a sorti un communiqué de presse donc sur cette idée de justice à deux vitesses, au moins deux vitesses d'ailleurs, sur la façon, puisqu'il était une commission indépendante avait sorti un rapport sur les crimes contre l'humanité russes en Ukraine. Et le 16 mars, c'était en mars 2023. Et donc, la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre
Vladimir Poutine.
Et nous, on avait relevé à ce moment-là qu'un certain nombre de chefs d'État responsables de crimes contre l'humanité, dont bien sûr Mohammed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Zayed pour les Émirats Arabes Unis, Paul Kagame pour le Rwanda, Benjamin Netanyahou pour Israël, George Bush et Tony Blair pour l'Irak, pour leur œuvre en Irak notamment, et Abdel Fattah al-Sissi, donc le président de l'Égypte. Tous ces gens-là ont été reçus en France avec faste, parfois, et sans que jamais la question de leur responsabilité soit posée au niveau de la Cour pénale internationale. Et là encore, on a créé un outil extrêmement important, hein, cette Cour pénale internationale, et on s'aperçoit qu'elle est également complètement politisée. Et voilà, on avait envie de faire cette remarque-là. Pour vous donner un ordre d'idée, le International Rescue Committee a fait une évaluation, parce que dans les conflits, c'est extrêmement difficile hein, de dire combien de gens meurent dans le temps du conflit. Par exemple, l'Irak, ça va de 20 000, selon le département d'État états-unien, à plus d'un million. Entre
pour les ONG.
Pour des centres de recherche... De l'université états-unienne. Je ne sais plus quelle université, mais en tout cas, voilà, il y a des évaluations qui sont faites et qui sont sérieuses. Ce sont des évaluations, mais elles sont faites de façon méthodique et sérieuse. International Rescue Committee pour la République démocratique du Congo a fait une évaluation entre 1998 et 2005 de plus de 5 millions de personnes mortes. De personnes directes et indirectes. Pour le Yémen, l'évaluation qui a été faite par les Nations Unies, je crois que c'était à la fin 2019, où c'était plus de 400 000 personnes directes et indirectes. Alors, c'était intéressant parce qu'une fois, j'ai eu une discussion avec l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, la mission 28 minutes, et il disait, oh là là, c'est très difficile les évaluations, et il parlait de l'évaluation des morts dans la guerre en Ukraine. On ne sait pas trop, il y a des estimations qui disent qu'il y a 100 000 personnes, 100 000 soldats combattants du côté russe, et 100 000 combattants du côté ukrainien. Seulement les deux pays, les deux gouvernements refusent complètement de
dire communiquer,
de dire la vérité là-dessus. Et de ce point de vue-là, ils se ressemblent comme dans un miroir. Et lui disait, non, ce sera beaucoup plus. Peut-être. Mais à ce moment-là, s'il dit que ce sera beaucoup plus, il faut qu'il reconnaisse que les évaluations qui sont faites sur la guerre en Irak, sur la guerre en Afghanistan, sur les guerres du Sahel, sur les guerres du Soudan, etc., sont sous-estimées là aussi. Donc qu'est-ce qui est important ? Est-ce que, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que chaque citoyenne, citoyen du monde a autant de droits ou est-ce que on va faire un petit tableau avec les échelles différentes de ces droits selon l'endroit où l'on est. Bon, on est dans cette configuration là. C'est terrible.
D'ailleurs, on le voit. Il vaut mieux pas être yéménite hein, dans tous ces tableaux. Le Yémen est parmi les derniers avec Haïti.
Oui, je pense que l'Afrique aussi fait partie des derniers. Moi, j'ai travaillé, se trouve que j'ai fait deux missions pendant la guerre en République démocratique du Congo. C'était une guerre qui était entre la guerre oubliée et la guerre occultée.
Oui.
Et quand on voit Kagame qui vient parader à Paris, l'armée rwandaise, sous les ordres de Kagame, même quand il n'était pas président, c'était sous ses ordres, est responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité au Congo, et lié bien sûr avec le pillage des ressources naturelles. Alors qu'aujourd'hui, on considère que... certains considèrent, Tony Blair, visiblement Emmanuel Macron, etc., que ce monsieur est
Infréquentable.
Est un dictateur éclairé. Non. Si la justice doit se faire, eh bien, elle doit traiter de la même manière. Et ils ont, avec les moyens de se défendre, avec les moyens juridiques de se défendre, ils devraient être eux aussi recherchés par la Cour pénale internationale.
Bien. Alors, il faut reconnaître à ton avocat, votre avocat, et il y a un autre avocat aussi, la persévérance des plaintes. Je pense aux plaintes lorsqu'il y avait les cargos qui devaient charger les armes. Je vous avais reçu à ce moment-là. Mais il y a aussi un autre avocat qui a osé porter plainte carrément contre MBS, qui est Maître Bréham.
Alors, moi, il se trouve qu'on ne se connaît pas. Alors, Matteo Bonalia a fait un travail remarquable, parce que c'est un domaine dans lequel qu'il a découvert. Hein, et il a fait un travail absolument remarquable, pro bono au début, donc là aussi. sur la question de la saisie du tribunal administratif. Alors nous, on a fait une démarche du tribunal administratif. On n'a pas fait une démarche en pénal. Parce que il y a une différence très très importante. Ça ne veut pas dire que la démarche de Brennam n'est pas importante, mais il y a une différence sur l'intention. En pénal, il faut prouver l'intention.
Voilà, c'est ça.
Alors que nous, on est sur... même si on pourrait penser que le fait d'être complice de crimes contre l'humanité pourrait peut-être engager un jour la Cour pénale internationale à interroger Emmanuel Macron, François Hollande, le Premier ministre Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Cazeneuve, etc. Tous ces gens qui ont été complices de ces crimes contre l'humanité. Mais cette démarche-là, elle est extrêmement difficile parce que pour montrer la complicité, il faut montrer
l'intention.
Nous,
vous allez sur des choses plus concrètes.
Oui, c'est-à-dire qu'on se tient à l'esprit du traité sur le commerce des armes, qui est un traité qui a été conçu comme un traité de prévention. C'est de dire il faut arrêter le flux des armes, parce que c'est le premier moyen pour arrêter qu'elle soit utilisée. Et notamment, alors, beaucoup de gens disent oui, mais alors, de toute façon, les armes, il y en a beaucoup trop dans le monde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup trop dans le monde. Mais donc, le fait d'arrêter de vendre des armes ne résoudra rien. Sauf qu'il y a une chose, c'est que les armes sophistiquées ont besoin de beaucoup de suivi, de travail de suivi, de mise en œuvre, etc. Et puis, les munitions, la question des munitions. Dans nos interventions que l'on avait faites sur les bateaux, les barils,
barils Yumbu
qui passaient alors une fois au Havre, une fois à Cherbourg, une fois à Fos-sur-Mer, pour ce que l'on sait, parce que sans doute qu'ils sont passés déjà dans d'autres ports sans qu'on ait pu le savoir. Eh bien, en tout cas pour Fos-sur-Mer, il s'agissait de munitions. Et à ce moment-là, on a fait des référés, la CAT aussi l'a fait avec nous, et on a obtenu sur la dernière action que l'on a faite à Cherbourg, d'abord il y a une grosse mobilisation qui avait été coordonnée par la CGT Cherbourg, CGT des usines d'armement voilà. En plus. Laurent Hébert notamment, on n'a pas réussi à empêcher le chargement, mais il y a la juge des référés a reconnu dans son arrêt que il y avait bien un lien entre les armes françaises, la vente et la souffrance du peuple yéménite, et elle reprenait en cela l'article 1er du traité sur le commerce des armes. Donc,
ça vous avait valu un bel article du Canard Rochenet à ce sujet, d'ailleurs.
Oui, oui. c'était avant, je crois, non? Oui,
c'était sur ça.
C'est bien sûr Matteo Bonalia qui avait mis ça dans son référé. Donc elle a... Mais c'est extrêmement important parce que, d'abord, tous les référés qu'on a posés, à aucun moment les juges ont dit qu'on n'avait pas le droit d'intervenir.
De les poser.
Donc le fait que nos associations interviennent là-dessus, et après avec le soutien de Médecins du Monde, Save for Yemen, Stop Fueling War, et puis Survie également. Oui. Non, pas Survie, pardon.
Non, pas Survie.
Sherpa, pardon. et Action contre la faim, on se rend compte que on a eu un peu plus de poids.
Oui.
Et que là aussi, on se dit, il faut pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas grand-chose. En tout cas,
pour faire une campagne au Yémen contre la guerre au Yémen, il faudrait plus d'ONG.
On a besoin de créer du rapport de force, et on crée pas du rapport de force
à deux ou à tout seul.
Nous, notre ONG, on est une vingtaine de gens qui sont experts, etc. Mais On n'a pas de moyens de mobilisation. C'est cette mobilisation qui permet de bouger. Bon, quand je m'occupais de ces questions à Amnesty, on faisait une action par mois, tous les mois. Mm-hmm. Et tous les mois, il y avait des groupes, il y avait plus de 400 groupes à l'époque qui faisaient un travail formidable d'interpeller les députés, d'interpeller les
plaidoyers, comme on dit.
Oui, de campagne, un travail, mm-hmm. un vrai travail de campagne. Et d'ailleurs, on avait à l'époque, créé, mais en un rien de temps, un groupe d'études sur le traité sur le commerce des armes. Parce que les députés recevaient tous des lettres, ils parlent entre eux, les députés. Ils se disent, mm-hmm. bon, ben, voilà, le jeu démocratique se faisait. Là, maintenant, ça a complètement disparu. Et c'est assez dramatique.
Voilà. Alors, est-ce que ça vient du fait que la France exporte des armes et que, à part l'ultra-gauche, tout le monde accepte que la France exporte des armes parce que ça fait vendre et que ça fait rentrer des devises. Soyons concrets.
Alors, oui, les sommes... Alors, c'est ça aussi, les sommes et le nombre de personnes qui travaillent dans le domaine de l'armement, c'est un petit peu mystérieux. Hein. Il y a un rapport chaque année. D'ailleurs, cette année, il n'est toujours pas sorti. Il aurait dû sortir au mois de juin. Comme par hasard, il n'est pas sorti. Eh bien, quand on se rend compte de la valeur totale de ces sommes, c'est pas énorme. Hein. On dit qu'il y a peut-être 200 000 avec les contractants, les sous-contrats, etc., de personnes, mais c'est même pas sûr qu'on arrive à 200 000 personnes qui travaillent dans le domaine de l'armement. Pour justifier, là aussi, une industrie. On parle de 8 milliards de parfois des contrats, une année, j'en étais soi-disant jusqu'à 16 milliards. Sauf que on ne sait pas véritablement si ces 16 milliards à la fin des accords, puisque, par exemple, l'accord, quand on a vendu, la France a vendu des avions, des Rafales au Qatar, elle a dû en contrepartie ouvrir le ciel français à Qatar Airways.
Oui.
Donc, ça veut dire une perte sèche notamment pour Air France. Quand la France a envoyé les Mistral qu'elle n'a pas vendu finalement à la Russie, elle l'a vendu officiellement à l'Égypte, avec les premiers Rafales qui ont été vendus, etc., et des frégates FREM. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que l'Égypte a payé. Alors, elle s'est engagée à payer, hein, bien sûr, la main sur le cœur. Mais cet argent-là, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que la
France. On ne voit pas la couleur pour l'instant.
Et quand on pense au budget de la culture, par exemple, c'est plus d'un million de personnes qui travaillent pour la culture dans l'année. Donc, toutes ces questions devraient être posées dans un débat démocratique, dans un pays démocratique. Et bien entendu, elles ne sont pas posées.
Oui.
Voilà.
Bien.
Sur la réalité des ventes d'armes de la France aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, sur 5 ans, 6 ans, on a des sommes qui sont importantes, qui ne sont pas considérables, hein, mais qui sont importantes. On arrive à peut-être une dizaine de milliards en comptant les armes vendues sur 5 ans à ces deux pays. Mais, encore une fois, 5 milliards, on a une loi de programmation militaire qui fait 413 milliards.
Oui.
Hein. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la priorité en France, ou est-ce que c'est pays des droits de l'homme, hein? Il y a une époque où on disait la France pays des droits de l'homme, qui n'a jamais vraiment été, mais enfin disons qu'il y a quand même cette déclaration de 1789, et on pourrait dire les droits économiques, sociaux et culturels sont aussi importants, les droits de l'homme sont, les droits sont indivisibles, hein? Il n'y a pas des droits qui sont plus importants les uns que les autres, et le droit au logement, le droit aux soins, le droit à l'accès à l'eau, tous ces droits-là sont aussi importants les uns que les autres, que le droit de vie, et on pourrait considérer ça dans un débat général en France, pour savoir si, même sur le plan économique, il est vraiment intéressant pour la France d'accepter de vendre à des régimes comme l'Arabie saoudite, l'Égypte ou les Émirats arabes unis.
Bien. Merci Benoît, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur le travail de l'ASER et notamment le dernier par rapport à Israël.
D'accord.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission consacrée au Yémen, une guerre, la guerre occultée, avec Benoît Mourachol.
Bravo. J'y
suis arrivée. Bravo. C'est un miracle. Bien. Alors, on va faire un appel à don pour l'ASER, parce que pour financer les actions judiciaires, pour financer les campagnes et pour financer tout le travail de l'association, il faut faire un appel. Donc, on peut faire un don depuis le site internet de l'ASER, c'est aser.org.
Aser-asso.
.org, pardon, oui. J'ai oublié le asso. J'oublie toujours le asso. Voilà. Et nous allons passer sur l'actualité de l'ASER, qui est tout ce qui se passe en Israël.
Oui, alors... Quand le Conseil d'État nous a refusé donc de tenir compte de nos arguments, il y a eu une dimension intéressante. C'est dans la décision du Conseil d'État, en tout cas dans les arguments de la rapporteure publique sur l'impossibilité de la part du Conseil d'État de prendre en compte nos arguments. Elle a dit à un moment donné qu'elle ne pouvait pas prendre en compte nos arguments parce que nous avions fait une demande générale de suspension des licences d'exportation de la France. C'est un peu technique, mais disons que nous, dans notre travail, on s'est basé, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'article 6 qui dit toutes les armes qui pourraient servir, être utilisé dans un conflit, à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, grave violation de la Convention de 1949. Et dans son argument, elle dit aussi, mais on peut considérer que si ça avait été pour une licence, donc il semblerait qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Et donc ce que notre projet et la décision de notre Assemblée Générale et de notre Conseil d'Administration, c'était de dire, on va saisir le tribunal administratif, toujours avec Matteo Bonal et à notre avocat, sur une licence que délivrerait le gouvernement français pour une vente d'armes en Israël. Alors, pourquoi Israël ? parce que alors c'est pas un conflit occulté, parce que quand même on a des informations. On peut voir quand il y a de graves violations des droits de la personne, des crimes de guerre, etc. On a quand même ces informations, mais le gouvernement français continue visiblement sans état d'âme de vendre des armes. Et notamment, surtout depuis 2009, 2009, c'est une guerre, la guerre de Gaza, et le rapport Goldberg qui dit il y a bien des crimes contre l'humanité dans cette guerre. Après, lui se rétracte, mais les autres experts confirment bien qu'il y avait des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans cette guerre de 2009. Donc il y a, concernant Israël, la persistance de ces crimes contre l'humanité, et puis cet état d'apartheid qui, en soi, est un crime contre l'humanité. Alors, je dis ça, tout d'un coup, je m'interroge, je ne suis pas juriste, hein, mais en tout cas, qui est une grave violation des droits de la personne. Et sur cette base-là, nous allons demander l'arrêt d'une licence d'exportation. Alors, toujours l'intérêt dans ce genre de situation, c'est qu'il y ait un débat, qu'il y ait des gens qui, écrivent à leurs députés, qui disent « comment ça, vous n'intervenez pas, vous cautionnez le fait que Israël continue de recevoir des armes de notre part ». Etc. Je crois que c'est ça que ça met en place. On espère avoir un second Sébastien Nadeau, ou au sein du Sénat, ou au sein de l'Assemblée nationale, qui là aussi reprennent cette histoire et posent la question de la conformité des exportations d'armes de la France avec le droit international. C'est comme ça qu'on avance. Ce que beaucoup d'ONG n'ont pas compris quand on a fait cette saisie la première fois, en disant ça sert à rien de toute façon, vous allez être toqué. Si on arrête de faire les choses, parce que de toute façon on sait qu'à la fin on va perdre, on n'aurait jamais commencé à faire le traité sur le commerce des armes, à faire cette campagne.
C'est clair.
Dans les premiers temps, juste une anecdote, on avait écrit, à l'époque c'était Villepin qui était ministre des Affaires étrangères, on avait donc écrit pour demander à ce que la France se positionne en faveur du traité sur le commerce des armes. Il nous avait dit « jamais vous aurez un traité sur le commerce des armes ». Déjà grand visionnaire, le bonhomme. Il a dit « on aura peut-être un code de conduite international ». Il y avait un code de conduite pour l'Union européenne à l'époque, et les États-Unis avaient parlé à un moment d'un code de conduite international. Et pourtant, il y a un traité. Donc, cette mobilisation, quand elle est organisée, quand elle est faite, les gouvernements peuvent pas empêcher cette demande de la part des citoyens et des citoyens. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire, c'est rassembler toutes nos énergies. Oui, on a besoin de votre aide, parce que notre avocat aussi, il a besoin de vivre, il faut qu'on le paye un peu, et puis parce que une fois par an, je me rends à la conférence des États parties du traité sur le commerce des armes à Genève, et que pour dire ce qu'on fait ici, pour dire là encore ce que la France fait auprès de ses pairs, ce qu'elle essaye de cacher, et pour être présent dans ce travail de prévention des droits de l'homme.
D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, on peut faire un don en ligne, donc oui. azer-du6asso.org.
Oui.
Voilà. Déduction, comme c'est une...
C'est pas déduit des impôts, parce qu'on a été reconnu association d'intérêt général, et on nous a mis en petit, vous savez, comme dans les contrats d'assurance, mais vous n'avez pas le droit d'être... ce ne sont pas des dons défiscalisés.
Ah.
Donc là aussi, on est intervenu, on a été même reçu par une commission qui nous a dit, au fond, ce que vous faites ne sert à rien, donc on n'a pas de...
Ah bon.
de le droit de défiscaliser.
C'est charmant.
Donc voilà, c'est, mais bon, c'est une bonne occasion quand même de faire des dons.
Bien. Alors, pour le Yémen, est-ce qu'il y a une bibliographie? Bon, il y a le site, votre site internet.
Oui.
Est-ce que tu peux conseiller des livres? Alors, moi, j'ai découvert que France Info, que je regarde de temps en temps, oui, a une émission Géopoliticus qui est consacrée au Yémen cette semaine. Il la rediffuse en boucle sur France Info et il donnait des chiffres. Et il donnait une guerre, le titre c'est « Une guerre pour rien », si mes souvenirs sont exacts. Et j'étais surprise de voir qu'il parlait du Yémen.
D'accord. Voilà. Ouais, c'est une bonne... Alors, nous, il y a quand même quelque chose qui est terrible, là aussi, c'est sur la situation humanitaire. Donc, la situation humanitaire, elle n'a pas... La guerre, elle est sporadique maintenant, mais la situation humanitaire, elle est toujours aussi terrible pour la population yéménite. Et les Nations Unies avaient fait une conférence internationale et avaient dit... Parce qu'il y a... La population du Yémen, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 33 millions de personnes. Et il y a près de 22 millions de personnes qui sont dans le besoin, donc dans l'urgence humanitaire. Les Nations Unies ont fait une estimation et ils ont dit, voilà, en gros, il faudrait un peu plus de 4 milliards pour pouvoir répondre à la demande, à l'urgence humanitaire du pays. Au 17 juin 2023, il y avait seulement 1,3 milliard de dollars de récoltés. 1,3 milliard de dollars de récoltés. Pour vous donner une idée, depuis un an de guerre, sur une année de guerre, un peu plus d'une année de guerre en Ukraine, les États-Unis, alors selon le Kiel Institute, ont versé, en gros, que ce soit ou en aide militaire ou en aide financière, etc., à peu près 80 milliards de dollars en une année auprès du gouvernement ukrainien. Il n'y a aucun suivi, aucun traçage sur les sommes qui sont envoyées. On sait quand même que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus, etc. Il n'y a aucun traçage. Il y a très très peu de traçage aussi sur la question des armes. Mais c'est plus de 80 milliards.
Ils ont envoyé des armes à sous-munitions.
Et puis, il y a eu cet envoi d'armes à sous-munitions qui contrevient au traité contre les armes à sous-munitions. À l'intérieur de ces 80 milliards, il y a près de 50 milliards d'aide militaire, hein, que ce soit en matériel ou en conseiller, etc. etc. Les chiffres sont pas les mêmes. Selon la BBC, c'est pas 80 milliards, c'est 112 milliards de dollars. Voilà. La Grande-Bretagne, depuis le début du conflit, elle a donné à peu près 4 milliards de livres. Alors, c'est 112 milliards de livres pour l'évaluation de la BBC. La Grande-Bretagne, elle aurait donné au moins, alors ce sont des minimums, hein, mais pour plus de 5 milliards de livres. L'Union européenne, plus de 3 milliards. L'Allemagne et la Pologne, 2 milliards, plus de 2 milliards chacune. La France, là, pour une fois, c'est bien parce que, bon, quand on a l'habitude d'un gouvernement qui fait plein de déclarations, mais qui derrière ne suivent pas, la France, elle n'aurait donné comme aide que 0,7 milliards de livres. Alors que quand on les entend parler, la France a sauvé l'Ukraine avec ses exportations d'armes. Bon, ce que ça, c'est pour une fois, c'est une bonne chose. Mais vous voyez encore une fois le déséquilibre qu'il y a entre l'aide pour la guerre et la destruction et l'aide pour la paix et le fait de sauver les populations. Bon, ça, c'était quand même, je trouve que c'était important
de le souligner.
De souligner.
Donc, on peut faire une pétition, on peut en parler à son député.
Oui. Vous pouvez écrire à votre député et demander
des explications.
Voilà. Et puis il y a il y a ce projet de loi de la part du groupe communiste au Sénat, hein, qui est quand même qu'il faut suivre, qui est à mon avis extrêmement intéressant, qui est la création d'une commission parlementaire qui puisse a posteriori contrôler les ventes d'armes. Alors, cette commission ne va pas pouvoir contrôler toutes les ventes d'armes de la France. Hein. Et puis, il ne faut pas seulement les ventes de matériel de guerre, il faut aussi ce qu'on appelle les biens à double usage, les biens qui peuvent servir dans le domaine militaire et dans le domaine civil. Mais on peut réduire le contrôle de cette commission, par exemple aux destinations sensibles et au matériel sensible. Mais en tout cas, la nécessité de la création de cette commission parlementaire qui permettrait à la France d'être enfin respectueuse de ses engagements internationaux et d'une certaine manière qui pourrait protéger les premiers ministres, les présidents de la République qui ont permis ces autorisations d'exportation d'armes. Il y avait une anecdote à propos de François Hollande.
Oui.
En 2016, avec Jean Guinel, on avait travaillé là-dessus sur des exportations d'armes, de munitions en direction de l'Arabie Saoudite. Au sein de la CIEMJ, la Commission interministérielle d'études des exportations de matériel de guerre, chaque année, chaque mois, il y a environ 40 personnes qui se réunissent et qui étudient.
Il y a un excellent film qui parle de ça. C'est Mon pays vend des armes, d'une journaliste, j'ai oublié son nom, qui montre justement cette réunion. D'accord. Elle n'a pas le droit de filmer, mais elle a montré comment
donc,
il se prépare.
Voilà, qui représentait avec des gens du ministère de la Défense, notamment du ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances. Et donc, ils disent, voilà, sur un certain nombre de matériel sensible ou, encore une fois, de destination sensible, qui discutent des risques d'usage. Ils devraient déjà d'abord discuter du respect des engagements internationaux de la France. Ça, ils ont du mal, mais en tout cas, du risque d'usage. Et il se trouve que sur les munitions, l'Arabie Saoudite demande des munitions. Et pour la guerre, bien sûr. Et le ministère des Affaires étrangères dit non.
Et refuse. Il est appuyé par Jean-Marc Ayrault.
C'est ça. Et à l'époque, Jean-Marc Ayrault est le premier ministre. Et il arbitre. Dans ces cas-là, il y a un arbitrage du Premier ministre. Mmh. Et il dit non. Et c'est l'Élysée qui intervient. Alors, en personne, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est l'Élysée qui intervient et qui dit non, et les munitions ont été exportées. Donc Jean Guinel avait fait à ce moment-là un article dans le Point là-dessus. Et puis je rencontre par hasard François Hollande et je lui parle de ça. François Hollande a été, avec bien sûr Le Drian, ces deux personnes qui ont été des personnes clés dans le rapprochement de la France avec l'Arabie Saoudite et notamment dans la question des ventes d'armes. Et donc je lui dis que c'est quand même eux qui ont commencé à augmenter la vente et avoir accéléré ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Et il me répond, mais à cette époque-là, il n'y avait pas la guerre. À partir de mars, c'est une information importante, c'est-à-dire de mars 2015 à mai 2017, c'est ça ?
Oui.
François Hollande n'était plus président de la République. Mais c'est pour vous dire un petit peu le décalage qu'il y a chez ces personnages entre la technocratie, quoi, le fait de décider un certain nombre de choses et d'avoir la conscience, la possibilité de faire le lien entre leurs décisions et l'impact que ça va avoir sur les personnes. C'était assez flagrant.
Bon. Eh bien, merci pour cette information. Alors, merci d'être venu, Benoît. Donc, je rappelle l'adresse du site internet aser-asso.org.
A2SO.
Oui, voilà, .org, pour faire les dons. Donc, nous avons parlé et nous avons essayé de présenter aussi et de façon la plus exhaustive possible, pourquoi le Yémen, c'est une guerre occultée. Et je voulais vous donner des nouvelles d'autres émissions. Nous avions reçu le docteur Annie Faure, qui était poursuivi par l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine. Elle était poursuivie, donc, elle a gagné son procès et surtout... Au miracle, Hubert Védrine ne fait pas appel de la décision. Donc, l'émission est toujours disponible sur notre site internet, groupe-louise-michel.org, dans la rubrique Pas de quartier. Vous pouvez la réécouter. Et nous sommes pas peu fiers de l'avoir reçue parce que elle a donné très peu d'interviews par rapport à cette affaire et elle a gagné. Donc, comme quoi notre travail peut aider un tout petit peu à faire le rapport de force. Donc, pour le Yémen, Benoît, tu rappelais qu'il fallait faire le rapport de force. Donc, vous avez des députés, vous avez des conseillers. Donc, si vous pouvez leur envoyer une lettre et leur demander pourquoi il y a un tel silence sur cette guerre.
Et sur les vandards, mais et le fait que le Parlement, c'est du devoir du Parlement de contrôler l'activité du gouvernement et donc de pousser pour la création de cette commission parlementaire de contrôle a posteriori des exportations d'armes de la France.
Bon, parfait. Alors, je tenais à vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui en prennent, mais si un bel été. Nous rediffuserons deux émissions au mois d'août et nous sommes de retour au mois de septembre avec plaisir. Je tenais à remercier donc Benoît et Ken Dong qui a eu la gentillesse depuis un mois de faire la technique. Il a accepté d'être formé exprès pour faire la technique et sans lui, sans technicien, il n'y a pas d'émission. Donc les techniciens, ce sont des personnages centraux. On les chouchoute, on les remercie et on en prend soin. Donc, Ken Dong, merci infiniment. Chers auditeurs, merci infiniment. Je vous rappelle que vous étiez sur Radio Libertaire 89.4 FM dans l'émission Pas de quartier et nous parlions du Yémen. Merci beaucoup.
Merci Mariama.
Merci Benoît.
La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gain, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergent des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, dis-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La